Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Elle est devenue avec le temps une figure de la culture pop et du féminisme. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Wonder Woman.
C'est ça qu'elle fait, Wonder Woman, bien avant. Elle va soutenir les femmes dans des luttes pour la contraception et compagnie. On la voit aller avec les femmes, puis on dénonce un peu l'individualisme qui entoure le concept du super-héros, mais au départ, elle se mêle beaucoup au mouvement collectif. C'est ça qui est intéressant.
Oui, elle va même, à un moment donné, se battre contre de vilains capitalistes qui sous-payent leurs employés dans les manufactures de vêtements. C'est hallucinant.
Un extrait de l'émission Médium Large à notre radio, c'est tout récent, juillet 2015. Elle a fait ses premiers pas sous forme de bande dessinée aux États-Unis en 1941. Princesse des Amazones et guerrière combattante, Wonder Woman a inspiré plusieurs générations de femmes. Son courage, sa puissance et son émancipation en ont fait une icône féministe. Car contrairement aux autres, Wonder Woman n'a pas besoin d'hommes. Elle est une super-héroïne indépendante, à la fois capable d'empathie et de force.
Je savais que c'était vous depuis le début.
Vous ne savez rien du tout.
Je sais que vous avez une amie qui porte une mitraillette dans son sac. Et vous ne commettrez pas une mauvaise action de plus.
Oh, et qui est-ce qui va m'en empêcher?
Oh, vous devriez savoir plus que tout autre que votre revolver ne vous servira à rien contre moi.
Je n'ai pas besoin d'un revolver, Wonder Woman. J'ai été la championne de judo de Nuremberg.
Oh, bravo. Et ce titre est censé m'impressionner, si je comprends bien. Oh! Oh! Maintenant, vous allez me dire toute la vérité.
J'ai...
Pas la peine de vous débattre. Ce lasso vous oblige à dire la vérité et à répondre à toutes mes questions.
Voilà un extrait de la télésérie Wonder Woman mettant en vedette Linda Carter. C'était en 1975. Pour nous en parler, mon invité, Alexandre Dumas, il est historien chargé de cours dans le réseau de l'Université du Québec. On le joint dans nos studios à Trois-Rivières. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors, ce personnage qui a évolué bien sûr avec le temps, qui a changé aussi physiquement, mais à l'origine, elle vient d'où Wonder Woman? Comment elle naît?
Alors, Wonder Woman, elle est créée en pleine Seconde Guerre mondiale, à la fin de 1941, donc très peu de temps après l'attaque de Pearl Harbor qui marque l'entrée en guerre des États-Unis. Il y a un engouement qui est très fort pour les super-héros. Dans les trois années précédentes, on a vu arriver Superman, Batman, Captain America, Flash et beaucoup d'autres. Les super-héros sont devenus rapidement les personnages préférés non seulement des jeunes, mais aussi de beaucoup d'adultes, entre autres les soldats américains. Et c'est dans ce contexte-là que Wonder Woman apparaît en 1941.
On est d'un père psychologue, hein? L'histoire de son créateur est fascinante, c'est un original, c'est un avant-gardiste.
Un original, oui. C'est un psychologue, le docteur William Marston, qui a une assez grosse carrière. C'est un professeur à l'Université Harvard. Il se fait connaître en créant le premier prototype du polygraphe, donc le détecteur de mensonges. Mm-hmm. Et c'est aussi une personnalité médiatique très populaire. C'est quelqu'un qui aime beaucoup accorder des entrevues, qui aime donner des conférences. Et c'est un grand fan de super-héros. Donc, quand les critiques vont commencer à dire que les super-héros abrutissent la jeunesse, qu'ils rendent violents, Marston va aller à leur défense. Et son discours va être apprécié et il va être invité par un éditeur à se joindre à un comité pour donner une espèce de direction morale à ses publications.
Et pourquoi il sent le besoin de créer Wonder Woman à ce moment-là?
Alors, Marston, d'abord, c'est un féministe. Mm-hmm. C'est un féministe qu'on considérerait radical encore aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui considère que les femmes devraient dominer le monde parce qu'elles sont plus sensibles, elles sont moins violentes, elles sont plus empathiques. Et donc, lui, il veut créer une super-héroïne, un personnage auquel les jeunes filles peuvent s'identifier, mais qui apprendrait également aux garçons que des femmes fortes, oui, ça existe, et ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur.
Et ça, c'est quand même assez révolutionnaire. Là, on est dans les années 40. Hein. Quand je dis un original, oui, par son travail, par sa façon de vivre, hein, sur le plan personnel, féministe, polyamoureux, vit avec deux femmes, crée ce fameux détecteur de mensonges, puis cette super-héroïne légendaire. Alors, c'est qui Wonder Woman? Elle fait quoi, Wonder Woman?
Alors, Wonder Woman, c'est une Amazone, donc qui vient d'une île peuplée uniquement de femmes, raison pour laquelle on l'appelle l'île du paradis. C'est une île qui est sans hommes. C'est un personnage qui est extrêmement fort, qui est extrêmement agile. Elle a des bracelets qui lui permettent de bloquer les balles des armes à feu. Elle a un lasso, comme on a entendu dans l'extrait, qui oblige les gens à lui dire la vérité. Et elle va être envoyée aux États-Unis par la déesse Aphrodite pour aider les Américains à faire la guerre aux Japonais, parce que la déesse sait que si les États-Unis gagnent la guerre, il n'y aura plus jamais de guerre sur Terre.
Ah oui, oui. Parce que c'est ça, elle connaît beaucoup de succès durant la guerre. Hein. Elle combat les nazis. En fait, elle défend la démocratie américaine, un idéal américain.
Oui, elle défend la démocratie contre ses ennemis. L'idée, c'était vraiment d'en faire une héroïne extrêmement patriotique pour essayer de contrer les critiques qui viendraient sans aucun doute. Donc, comme l'éditeur, ce qu'il voulait, c'était un personnage aussi patriotique que Captain America et aussi sexy que Miss America.
Ah oui, OK. Donc, dès le départ, c'est dit, ça. Hein? On veut un personnage aussi sexy. L'idée, c'est quoi? C'est d'attirer les hommes aussi? Ou surtout?
Oui, parce qu'on sait que les soldats américains sont des grands consommateurs de bandes dessinées et de super-héros en particulier. Donc, on sait que si on a un personnage féminin sexy, ça va forcément bien se vendre.
Mm-hmm. Donc, une super-héroïne indépendante. Bon, déjà, cette idée, encore une fois, dans les années 40, c'est assez révolutionnaire en soi. Il n'y en avait pas avant. En tout cas, pas de cette nature. Parce que souvent, c'est un personnage, oui, il y avait un personnage féminin, mais qui accompagnait et qui parfois, même dans certains cas, nuisait. Hein, à ce sujet, les propos de Marc de Roussan, spécialiste BD, c'était à l'émission L'aventure chez nous.
Il y a dans certaines bandes dessinées où la femme est tout à fait inexistante aussi. On prend justement Tintin, aller chercher la femme.
Il n'y a que Castafiore.
Il y a Castafiore. Toutes les femmes qui sont représentées dans Tintin, c'est des femmes acariates, des femmes qui tombent sur les nerfs, que, bref, on voudrait tout sauf la mariée. C'est pas ça. Et si on regarde par exemple Blade Mortimer, qui est également un joyau de la bande dessinée belge, avec de Jacob, la femme n'existe pas. On a beau regarder toutes les histoires, SOS Météor, Trois formules du professeur Sato, le secret d'Espadon, la femme est inexistante. C'est, alors, il y a des héros qui ont fait la bande dessinée européenne où la femme... Alors, c'est pas un phénomène de femme. Les États-Unis sont obligés de créer une héroïne pour attirer la jeunesse. C'était Wonder Woman, la première héroïne, qui justement répondait à un public de femmes.
Voilà, public de femmes et public d'hommes aussi. Comment s'est accueillie l'arrivée de cette super-héroïne à l'époque?
Alors, évidemment, c'est accueilli avec beaucoup de méfiance de la part des milieux conservateurs, entre autres justement pour l'aspect sexy du personnage. Mais par contre, ça va être un succès commercial qui est immense et instantané. Le troisième numéro de Wonder Woman va se vendre à 500 000 exemplaires, ce qui est énorme pour nos standards d'aujourd'hui. Mm-hmm. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on dépasse les 2 millions d'albums vendus. Donc, il y a seulement Superman qui arrive à faire mieux. Wonder Woman, elle se vend mieux que la plupart des super-héros masculins.
Ah oui, plus que Captain America ou Spider-Man ou Superman, vous dites.
Oh oui, c'est un immense succès.
Ouais. Alors, son créateur, il meurt en 1947, mais Wonder Woman survit. Comment elle évolue après la mort de son créateur?
Alors, la mode des super-héros, elle s'essouffle presque aussi rapidement qu'elle a commencé. Wonder Woman, elle n'y échappe pas. Par contre, elle continue à être publiée, ce qui est un exploit, parce que pendant ce temps-là, Captain America, Flash et tous les autres disparaissent. Le successeur de William Marston, c'est Robert Kanigher. Contrairement à Marston, c'est un écrivain professionnel. C'est pas un féministe, c'est pas non plus un réactionnaire, c'est quelqu'un qui écrit pour vendre, donc qui veut simplement écrire des bonnes histoires que les gens vont aimer. Il n'y a pas de contenu social. Donc, toute la lutte pour l'égalité, le combat contre les problèmes de l'américaine moyenne vont disparaître complètement de la série. Maintenant, Wonder Woman, elle se bat contre le crime organisé, contre des savants fous et contre des extraterrestres. Donc, exactement comme les héros masculins de l'époque.
Ah oui, la même chose. Parce qu'avant ça, elle se battait, ouais, justement, on l'a dit, bon, elle se battait pour la victoire américaine, mais il y avait aussi des combats féministes dans ses aventures.
Oui, absolument. Quand elle n'était pas sur le front en train de se battre contre des nazis, Wonder Woman va, par exemple, combattre pour améliorer les conditions des femmes dans le commerce, dans l'industrie. Elle va se battre contre la violence conjugale, la violence faite aux enfants, l'intimidation à l'école. Donc, il y a un contenu social qui était vraiment très fort à l'époque. Et aussi, Wonder Woman, elle va renverser les rôles traditionnels. Son amoureux, Steve Trevor, joue le rôle de la demoiselle en détresse. Donc, c'est un soldat américain, mais qui est complètement incompétent. qui a toujours besoin de se faire sauver par Wonder Woman. Et très souvent, on va la voir qui transporte Steve dans ses bras, exactement de la même façon que Superman transporte son amoureuse Lois Lane.
Ah oui, intéressant ça, hein? Et bon, là, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a l'auteur principal change. Il y a un contexte aussi qui n'est pas très favorable à la BD, hein? La bande dessinée, en fait, les comics. La BD est soumise à un code très, très strict aux États-Unis qui s'appelle le Comics Code Authority, donc dans les années fin 40, début 50. Qui dit quoi, ce fameux code?
Du côté de Wonder Woman, ce qu'on lui a reproché, c'est surtout d'être trop sexy et aussi d'encourager le lesbianisme. Donc, elle encourageait l'homosexualité chez les jeunes filles et chez les garçons aussi, parce que c'est un modèle de femme forte qui fait peur aux garçons. Donc, à partir des années 50, le milieu des années 50, on veut la montrer Wonder Woman amoureuse, donc qui, comme toutes les femmes, est à la recherche de l'homme qui va partager sa vie. Et ça va beaucoup changer les scénarios. On va un peu moins la montrer en femme forte et beaucoup plus en romantique qui veut simplement rencontrer l'amour.
Oui, et puis même son physique va changer aussi. On va la rapetisser un petit peu, là, hein?
Oui, pour qu'elle soit plus petite que son amoureux.
Ah oui, bien sûr. Puis bon, il y a plein d'autres choses dans ce fameux code. Il faut faire la promotion du mariage, entre autres, les armes, la violence, la cigarette. Bref, c'est un code moral. Et on va écouter ce que ça donne. Un agent de la censure américaine à l'époque qui dressait le bilan de son travail en janvier 1955.
Since October 26th, when the code was adopted.
Depuis l'adoption du Code le 26 octobre dernier, notre bureau a procédé à la révision de 440 publications qui devaient voir le jour au début de l'an prochain. De ce nombre, 126 histoires ont été considérées inappropriées et donc rejetées. C'est plus de 5656 dessins qui ont été éliminés et remplacés par des illustrations conformes au Code. Le secteur de la bande dessinée a subi une transformation majeure.
A major facelifting.
Voilà, une transformation majeure. Puis Wonder Woman, bon, demeure quand même populaire, mais moins qu'à l'époque, hein, si on compare justement à l'année de sa naissance ou durant l'époque de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, bien, premièrement, le code va faire très mal à l'industrie de la bande dessinée. Mm-hmm. Et beaucoup de parents vont commencer à avoir un très mauvais œil la bande dessinée. C'est un peu comme les magazines Playboy dans les années 90. Hein. Les enfants continuent à les acheter, mais ils les cachent. Et donc, ça va forcément affecter beaucoup les ventes. Et de l'autre côté, l'auteur de Wonder Woman, Kaniger, va refuser d'évoluer alors que l'industrie, elle, évolue. Et ce qui fait que le public dans les années 60 va se désintéresser de Wonder Woman progressivement et les ventes vont diminuer jusqu'à ce que Wonder Woman devienne la super-héroïne, en fait, le personnage dont les aventures se vendent le moins.
Oui, mais là, ça va changer parce que Wonder Woman va connaître un regain de popularité dans les années 70 avec la fameuse série télévisée. On a entendu un extrait. Qui décide de la récupérer à ce moment-là?
Alors, on a la féministe Gloria Steinem, qui est une grande féministe américaine, qui va fonder le magazine Miss en 1971. Et en 1972, elle va consacrer un numéro entier à Wonder Woman. Elle va beaucoup critiquer ce que l'éditeur DC Comics en a fait, en lui retirant ses pouvoirs, en faisant une espèce de bimbo sans intérêt, et donc l'objectification de l'héroïne. Steinem va aller jusqu'à faire du lobbying directement auprès de l'éditeur, et elle va avoir gain de cause. Donc Wonder Woman va être relancée avec des nouveaux auteurs, elle va connaître un grand regain de popularité. Steinem, elle a fait un énorme coup de publicité pour le personnage.
Au sujet justement de Gloria Steinem, cette grande féministe américaine, on va l'écouter ici l'extrait d'une entrevue qu'elle avait accordée à l'époque à Denise Bombardier, non pas au sujet de Wonder Woman directement, mais au sujet du féminisme en général et des luttes à mener. C'était à notre télé en mars 1985.
Quel est le gain le plus important pour les femmes au cours de la dernière décennie?
I think it's confidence.
Je crois que c'est la confiance et une compréhension que la place des femmes n'a pas été dictée par Dieu ou la biologie ou Freud. C'est faux. Nous sommes des humains à part entière et nous avons le droit d'agir en notre propre nom.
Il y a beaucoup de femmes qui ont peur du féminisme, du mouvement féministe, à cause de l'agressivité envers les hommes. Pensez-vous qu'il est possible d'être une combattante pour le féminisme et ne pas être agressive envers les hommes?
Je pense que le progrès dans une direction où nous ne sommes pas allés. Les femmes ont été formées pour être passives et serviles. Le progrès consiste à devenir assertive plutôt qu'agressive, parce que ce n'est certainement pas être violente.
Propos donc de cette grande féministe qui a contribué à populariser Wonder Woman à l'époque, parce que là, les grands studios de télé vont décider de produire cette émission, même si au début, on n'y croyait pas beaucoup. L'idée d'une femme super-héroïne, on n'était pas certain que ça allait marcher.
Non, mais c'est pas du tout à la mode à l'époque.
Ben non.
Les super-héroïnes, à ce moment-là, ce sont souvent, vous l'avez dit, des personnages beaucoup plus faibles, donc des espèces de faire-valoir pour les hommes. Chez Wonder Woman, c'est pas le cas. Il y a aucun homme pour la sauver. C'est un concept qui était très risqué, mais qui va marcher énormément. En 1975, donc, on lance une télésérie avec Linda Carter dans le rôle-titre, et ça va vraiment marquer les esprits. Pour la plupart des Américains, Wonder Woman, c'est Linda Carter.
Mmh, oui, tout à fait. Mais comment elle est perçue, justement, par le public, cette Linda Carter, puis cette nouvelle version de Wonder Woman?
On revient vraiment aux origines. Donc, même si on est dans les années 70, l'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on revient vraiment aux histoires de William Marston. Le message féministe est moins souligné qu'il pouvait l'être à l'époque, mais par contre, on revient vraiment aux premières valeurs. Donc, la série, elle est très féministe. C'est un peu comme, on pourrait la comparer à d'autres séries comme Charlie's Angels.
Oui,
les
oui.
femmes l'écoutent parce que ce sont des femmes, des personnages féminins forts à l'écran. Les hommes les écoutent parce que c'est une femme sexy à l'écran.
Oui, tout à fait. Linda Carter qui devient une icône. Puis la représentation, elle change aussi avec les années. Hein. On le dit, même chose pour le corps de Wonder Woman. On l'a rapetissé à une époque. Là, par la suite, dans les années 70 et 80, on le voit avec Linda Carter, une femme forte. À ce propos, on va écouter Yannick Paquet, illustrateur de Wonder Woman, un des rares Québécois à avoir percé le marché du comic book américain. C'était à l'émission Macadam Tribu en janvier 1999.
La bande dessinée américaine commence à avoir un peu d'âge. Elle a toujours reflété à peu près la mentalité américaine. Le corps de Wonder Woman, bien sûr, est forgé par ces espèces d'idéaux-là qui changent au cours des années. Dans les années 60, vous savez, l'espèce de coupe de cheveux ménagère qui revient avec des pointes en avant. C'est difficile à expliquer comme ça, là.
Ouais,
sans
vois,
image, mais bon, Wonder Woman avait cette espèce de coupe de cheveux-là. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Ça représente peut-être plus...
La musculature a changé énormément aussi.
Oui.
Autant chez les héros masculins que
oui,
féminins.
Oui. Maintenant, moi, j'ai aucun scrupule à faire Wonder Woman un peu bâti.
Ouais,
je dirais pas haltérophile, mais pas loin. Capable de combattre et de se tenir debout. Mais encore une fois, dans les années précédentes, je pense peut-être aux années 40-60, Wonder Woman était beaucoup plus frêle, probablement pour matcher avec l'esthétique à l'époque où si on avait amené un haltérophile féminine, on aurait peut-être choqué les esprits à cette époque-là.
Voilà, donc le corps change, extrêmement populaire dans les années 70, parce que c'est vrai que pour bien des gens, Wonder Woman, c'est d'abord Linda Carter. Et là, ça change dans les années 80-90, ça sombre un peu dans l'oubli. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un effet de mode ou autre chose?
Dans les années 80-90, il faut dire, c'est vraiment une époque où les jeunes commencent beaucoup à écouter la télévision. Ils se désintéressent progressivement des bandes dessinées. Donc, il y a encore une baisse de popularité pour les super-héros en général. Wonder Woman n'est pas la seule de ce côté-là. Mm-hmm. Mais les bandes dessinées Wonder Woman vont quand même chuter au point de... On va se demander, est-ce que c'est encore rentable de publier cette série-là? Et c'est là qu'elle va être réinventée encore une fois, au milieu des années 80, où pour la première fois, on va mettre des femmes en charge de son développement. Donc, malgré que ce soit un personnage féministe, malgré le fait que DC Comics était dirigé par une femme, il faut attendre c'est presque 50 ans avant qu'on ait l'idée de mettre des femmes en charge de Wonder Woman.
Oui. Et là, elle va revenir en force aussi avec la fin des années 90, avec la vague des films Marvel. Hein, il y en a plein. Puis cette fois, ben, vous l'avez dit, ce sont dans le cas des bandes dessinées, des films, des femmes qui dirigent. Mais c'est le cas aussi, ça va être le cas plus tard avec les films. Ce sont des femmes qui seront aux commandes, même pour réaliser ces fameux films.
Oui, effectivement. Et c'est là que Wonder Woman retrouve toute sa pertinence, qu'elle va renouer avec son contenu social et avec le succès commercial, comme quoi c'est pas incompatible. Elle devient un des personnages les plus emblématiques de l'univers DC. Elle apparaît dans la plupart des dessins animés et des films animés dans les années 2000. Et le point culminant, vous l'avez dit, ce sont les films de 2017 et de 2020, Wonder Woman, qui sont réalisés par Patty Jenkins, donc une femme, avec Gal Gadot dans le rôle-titre. C'est le premier film qui est consacré à une super-héroïne qui soit un succès critique et commercial.
Oui. Et est-ce qu'elle change? Elle est comment, la Wonder Woman de 2017-2020, par rapport à celle des années 40 ou 50?
Alors, dans les années 40-50, Wonder Woman, c'est vraiment une féministe douce. Donc, c'est un personnage qui a un instinct maternel extrêmement fort qu'elle projette sur l'humanité tout entière. Alors que Wonder Woman, aujourd'hui, c'est un personnage forcément qui est plus violent, simplement parce que c'est une super-héroïne, c'est comme ça. le médium exige une certaine violence, mm-hmm. qui est beaucoup plus... sans détester les hommes, qui a un féminisme beaucoup plus radical. On la présente un peu comme une étrangère qui ne comprend pas les biais envers les femmes dans le monde des hommes.
Ah oui, hein? On va écouter ce que ça donne ici, un extrait donc de la bande-annonce du film de 2017, Wonder Woman.
Forme-la durement. Plus durement que tout autre Amazon. 5 fois plus durement. 10 fois plus durement.
Ne baisse jamais la garde! Un combat n'est pas toujours loyal!
Jusqu'à ce qu'elle soit encore plus forte que toi. Mais elle ne doit jamais connaître la vérité.
Voilà, extrait du film de 2017. Où elle se situe? Parce qu'il y en a tellement des personnages, puis il y a tellement eu de films de Marvel au cours des 10-15 dernières années. Elle se situe où par rapport aux autres, par rapport à, je sais pas moi, Batman, Captain America, Superman et les autres?
Alors, c'est certain qu'au niveau des ventes, Wonder Woman, ce n'est absolument pas comparable à Batman, Superman ou Spider-Man. Il y a beaucoup plus de gens qui connaissent Wonder Woman que de gens qui lisent ses bandes dessinées ou qui vont regarder ses films. Dans le milieu féministe américain, Wonder Woman, c'est encore une icône extrêmement importante. On reconnaît le personnage, même si on n'a jamais vu ses bandes dessinées ou si on a vu ses films.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'elle représente toujours aujourd'hui, donc une icône féministe?
Encore aujourd'hui, oui. La politicienne américaine Alejandra Ortega-Cortez avait été dessinée sous les traits de Wonder Woman à la fin des années 2010. Et donc, ça montre... elle est encore très, très présente dans l'iconographie féministe, dans les mouvements féministes. C'est une image qui est encore très forte pour le public américain.
C'est assez audacieux, ce personnage, quand on y revient à la création de ce personnage dans les années 40.
Oui, c'était audacieux et... malgré le fait que ce sont principalement des hommes qui ont dirigé le personnage pendant des dizaines d'années, c'est encore le cas, on l'a entendu dans un écrit que vous avez diffusé, c'est encore principalement des hommes qui vont la dessiner. Mm-hmm. Le simple fait de placer une femme dans un rôle traditionnellement masculin, dans une industrie qui rejoint énormément de gens, ça en fait une femme modèle pour, toute une, en fait, pour plusieurs générations de jeunes filles et de jeunes garçons.
Oui, ben, elle demeure certainement le visage, en tout cas l'icône féministe chez les super-héroïnes. On va se laisser d'ailleurs en musique avec le générique de cette fameuse télésérie devenue mythique avec Linda Carter dans le rôle de Wonder Woman 1975. Mon invité, je rappelle Alexandre Dumas, historien chargé de cours dans le réseau de l'Université du Québec qui nous parlait depuis nos studios à Trois-Rivières. Merci Alexandre.
Merci à vous.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la recherche Olivier Mercure, Annie Richer, recherche d'archives Jacinthe Mayotte, site Internet c'est Ronald Georges, à la mise en onde Jacques Lebrun. Aujourd'hui l'Histoire est une émission de Jacqueline Castonguay. Si vous avez envie d'écouter ou bien de rattraper nos émissions, vous pouvez toujours le faire sur notre site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou bien vous pouvez nous écouter en balado, c'est sur notre application exclusive à Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook, toujours un plaisir de vous lire, n'hésitez pas à le faire, ou encore l'adresse suivante, le bon vieux courriel, histoire à commercial radio-canada.ca. Ici Maxime Coutier, merci d'avoir été là. Bonne soirée, à une prochaine, au revoir.
Elle ne craint rien ni personne. Elle fonce comme un homme. C'est la justicière interplanétaire. Elle jaillit comme un éclair.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.